ici la musique.
À l'heure de Par ici la musique, on est dans le local de travail de Manu Koumer. C'est un local où tout se fait, aussi bien les cours, la composition et puis parfois quelques maquettes, j'imagine.
Effectivement, il y a un peu de tout. C'est ici que je donne mes leçons. Il y a une contrebasse qui traîne dans un coin. Il y a quelques guitares sur des pieds un peu partout. Il faut faire gaffe aux câbles.
La contrebasse, elle est importante. Elle est en tout cas imposante.
En tout cas, elle est imposante, oui, où qu'elle soit, on la remarque. Oui, c'est un instrument. C'est le dernier instrument dont j'ai appris à jouer, finalement. Il y a à peu près 10 ans de ça que j'en fais maintenant. Mm-hmm. Avant ça, il y a eu la basse, la guitare. Sous un peu toutes les formes, mais la contrebasse est venue assez sur le tard et c'est un instrument fascinant.
Lorsque l'on s'appelle Koumer, Manu Koumer, est-ce que la musique est une évidence ?
Une évidence, en tout cas, dans la vie de tous les jours, c'est quelque chose, en tout cas, de très important. Ça l'a toujours été, pour moi, quelque chose de très important d'en écouter. C'est une sorte de langage aussi, en quelque sorte. C'est très difficile pour moi de parler de quelque chose d'aussi évident que la musique. C'est un monde qui a toujours eu de l'importance pour moi, même si j'ai commencé à en faire relativement tard.
Mais baigner dans la musique, ça veut dire que tu as été inspiré aussi beaucoup par la musique avant d'attaquer la guitare classique.
Oui, il y avait toujours de la musique chez nous. Mmh. Il y avait toujours son mon père qui joue du piano, soit un disque qui tourne.
Qu'est-ce qu'il y avait comme disque qui tournait ? Quel est le disque qui te marque encore aujourd'hui, qui tournait quand tu étais gosse ?
Mes parents écoutaient plutôt de la musique classique, un peu de la chanson aussi. Personnellement, ce qui a commencé, les premières choses que j'ai écoutées pour mon compte personnel, à part ces choses-là, évidemment, dans lesquelles j'ai grandi, la musique classique, j'en ai pris ma dose, avec plaisir d'ailleurs, ça ne m'a pas quitté. Sinon, quand j'avais 12-13 ans comme ça, ça a beaucoup été le rock progressif, la pop de cette époque-là. Il y a des choses que j'écoute toujours depuis cette époque-là, comme Pink Floyd par exemple, comme Jethro Tull, comme Michael Field, comme... quoi d'autre encore, Magma, comme Ange ou Yes. Ce genre de musique-là, je crois, a eu plus d'importance pour moi que je ne le pensais pendant un certain temps. Parce qu'après, je suis passé à d'autres choses. J'ai écouté beaucoup d'autres choses. Mais je crois que ça a été formateur pour moi aussi.
À 16-17 ans, tu commences la guitare classique. Alors bon, évidemment, on peut dire que c'est un peu tard, mais finalement, quand on a envie de commencer, on y va. Qu'est-ce qui a été le déclic à ce moment-là ? Qu'est-ce qui fait que tu as quand même voulu aborder la musique ?
La guitare est un instrument qui me fascinait depuis très longtemps, je pense. L'occasion s'est un jour présentée. Pourquoi j'ai commencé à ce moment précis et pas avant, je ne saurais pas vraiment le dire. Peut-être une disponibilité de l'esprit, simplement. J'ai eu envie à ce moment-là. J'ai été prêt à faire le pas et l'effort nécessaire. C'est peut-être tout simplement ça. Et si j'ai abordé ça par la guitare classique, c'est parce que j'aimais beaucoup ce type d'instrument, la guitare à cordes nylon, sa sonorité, évidemment. Aussi parce que ça m'apparaissait comme un moyen efficace d'apprendre à jouer de l'instrument, de pouvoir passer après à d'autres styles de jeu et d'autres styles de musique en rapport avec cet instrument.
Question toute bête, aujourd'hui, tu te considères comme guitariste ou comme bassiste ?
Oula, difficile à dire, j'ai toujours été un peu les deux. À vrai dire, la question n'a pas tellement d'importance pour moi, vu qu'il s'agit... Pour moi, c'est le même instrument, dans le fond. C'est le même instrument utilisé dans des rôles différents. J'aurais beaucoup de peine à trancher entre les deux. Même si dans mes groupes, jusqu'à maintenant, les groupes auxquels j'ai joué, j'ai essentiellement été bassiste ou contrebassiste.
Le premier groupe qui te marque, dans lequel tu t'engages, c'est le Roast Beef Blues Band.
Le Roast Beef Blues Band, effectivement, ça a été, bon, ça n'a pas été le premier groupe dans lequel j'ai joué. Il y en a eu quelques autres avant, des contextes plutôt jazz en fait. Le Roast Beef Blues Band, ouais, ça a été quelque chose, parce que là, on a beaucoup joué. On a beaucoup tourné, et puis je découvrais un peu le blues aussi. C'est une musique que je ne connaissais pas tellement. C'était René Meyer, le batteur, chanteur, harmoniciste de l'époque, que je connaissais déjà d'auparavant d'un groupe orienté plutôt jazz fusion, qui avait envie de former un groupe de blues. Il m'avait demandé de venir avec lui. On a trouvé deux autres gaillards pour jouer avec nous. Et puis, ça a été une découverte pour moi de ce style de musique qui m'a beaucoup plu et qui me plaît toujours.
Et tu penses que tu as beaucoup appris en jouant avec les Roast Beef, justement?
Bien sûr. On apprend toujours beaucoup en jouant en groupe, c'est essentiel. Les Roast Beef, oui, ça a été important parce qu'on jouait beaucoup, on jouait régulièrement, parce qu'on faisait du boulot sérieux.
Après les Roast Beef, il y a eu quelques années après, il y a le départ avec L'Homme à Rang Nu. C'est un projet qui fait un peu décoller Manu Koumer.
Oui, parce que c'est la première fois que j'écris moi-même des chansons. Alors c'est ça, pour moi, ça a une très grande importance. Là aussi, pourquoi je ne l'ai pas fait avant, c'est très difficile à dire. Tout d'un coup, ça m'est apparu comme une évidence, beaucoup grâce à Laurent, qui m'a incité à le faire aussi, parce que lui-même écrivait déjà pour Mong ou pour lui. Et c'est lui qui m'a proposé aussi de faire un duo parce qu'il avait envie de faire quelque chose de léger, guitare, contrebasse, chant. Ça se dépasse plus facilement qu'un big band. Et puis c'est vrai qu'à ce moment-là, quelque chose s'est passé pour moi. Je me suis mis à écrire des chansons et puis ça me paraissait plus si compliqué.
Les nains ont des jardins, mais reste où on les a posés. Les nains ont des brouettes qu'ils n'en finissent pas de pousser. Les nains ont des lanternes, mais ne sont pas plus éclairés. Les nains ont des pots de fleurs qu'ils ne savent pas à qui donner. On ne sait pas d'où ils proviennent, leur maître n'en parle jamais. Mais à coup sûr, on voit qu'ils aiment l'ordre, le calme et la propreté. Car ils habitent les beaux quartiers où on voit pas trop d'étrangers. Derrière les haies et les murets, ils se sentent en sécurité. Les nains ont un bonnet, leur bonne tête est tout près de lui. Les nains ont le sourire, mais ils...
L'homme à rang nu, c'est aussi l'expression, c'est aussi la possibilité de lâcher les mots et de pouvoir peser le poids des mots.
Oui, c'est vrai que l'homme à rang nu, à ce niveau-là, a été très important pour moi. La possibilité d'écrire des chansons, de m'amuser à écrire des chansons, parce que ça doit rester un amusement. C'était quelque chose qui, pour moi, a pris de l'importance, de dire les choses aussi, de les dire d'une certaine manière. bien précise, avec humour si possible, avec assez de distance quand même, en évitant de trop parler de soi, et en pratiquant la satire finalement. Ça a toujours été pour moi, jusqu'à maintenant en tout cas dans les chansons que j'ai écrites, cette idée satirique a toujours été forte parce qu'elle m'amuse, parce que j'aime cette façon de fonctionner et parce que j'aime les gens qui savent fonctionner de cette manière-là, qui savent être drôles sans être blessants, qui savent dénoncer sans démolir.
Car même si tout bouge autour d'eux, ils sont sur un îlot fleuri. C'est qu'ils tiennent à rester entre eux, avec leurs sous et sans souci. Les étrangers sont des païens, ça se drogue, ça vole, ça se reproduit. Pourtant parfois on les aime bien, quand ils bossent pas cher sans permis. Et puis surtout, on les adore, quand ils viennent pour planquer de l'or. Les nains adorent les grottes, ils en creusent pour faire des réduits. Les nains ont des chalets, domicile adoré, mon abri. Les nains aiment les proverbes, small is beautiful, tout est dit. Les nains ont des principes, obligatoires ou interdits. Les nains votent le parti dès qu'on leur fait peur avec du pognon. Ils savent que les bonnes solutions sont toutes simples, y'a qu'à dire non. Les nains votent le parti dès qu'on leur fait peur avec du pognon. On se console des élections en écrivant une chanson.
Avec ton instrument, tu as accompagné d'autres chanteurs qui sont très proches de la poésie, si je pense à Michel Neuville et à Florent Brancucci. Pouvoir les accompagner, même si parfois on a l'air de se cacher derrière sa contrebasse, c'est aussi formateur.
C'est vrai que la contrebasse est un instrument derrière lequel on se cache un peu, il faut reconnaître.
Par timidité ?
Pas seulement à cause de sa taille, un peu par timidité. C'est une question de personnalité chez moi. Le rôle de bassiste m'a toujours bien convenu parce que ce n'est pas un rôle où on se met en avant. C'est un rôle de pilier, mais ce n'est pas un rôle de devant de scène,
de leader,
oui. Le passage à la guitare électrique, j'ai joué à un moment donné de la guitare électrique avec le Roast Beef, quand on a reformé le groupe. Au début, ça me faisait un peu bizarre de me retrouver dans ce rôle beaucoup plus en avant.
Mm-hmm. Puis la contrebasse, on peut s'appuyer un petit peu dessus.
C'est un instrument d'appui, effectivement. Mm-hmm. On s'appuie, on se cache. Oui, c'est vrai, on se cache un peu.
Il y en a une ici de contrebasse. Alors, je trouve que la contrebasse est vraiment l'instrument typique qui a une vraie personnalité parce qu'elle est réellement à taille humaine, parce qu'elle a parfois des formes humaines aussi. Et moi, je me souviens avoir discuté, je l'ai déjà dit plusieurs fois dans cette émission, mais avec Popol Lavanchy, pour qui sa contrebasse, c'était un petit peu sa grand-mère, parce qu'elle avait, presque un siècle, hein, la sienne. Et il y a quelque chose de très humain dans la contrebasse.
Oui, c'est vrai que les gens qui jouent cet instrument, ou du violoncelle aussi, ce genre d'instrument. On parle souvent de cette manière-là, de ce côté très présent, très vivant. C'est vraiment un instrument très vivant, avec des imperfections parfois. C'est un instrument qui peut changer de caractère suivant le temps. Mm-hmm. Ça, c'est connu. Mm-hmm. Les guitares le font aussi, les guitares acoustiques le font aussi. Peut-être d'une manière moins évidente. Mm-hmm. Une guitare, ça reste maniable.
Si je te demande d'en jouer, là, quelques notes, quelques secondes,
c'est possible ?
Bien sûr.
Ouais.
On a parlé de l'écriture tout à l'heure. La lecture et l'écriture, ça fait partie des passions de Manu.
Oui, je lis énormément de livres depuis toujours, c'est vrai.
Le livre que tu lis actuellement, c'est quoi ?
Le livre que je lis actuellement, c'est le Matin des magiciens de Louis Powels et Jacques Bergier, que je n'avais encore jamais lu, mm-hmm. et qui est vraiment intéressant. Même s'il date un peu, il date du début des années 60. Mais les idées qu'il présente sont intéressantes pour moi.
C'est une manière de voyager, le livre ?
Oui, aussi, bien sûr. Je voyage toujours beaucoup en lisant, quand les livres en valent la peine. Il y a des auteurs qui savent nous faire voyager. J'ai lu il n'y a pas longtemps un livre d'Alexandra David Neel, je n'ai encore jamais lu cet auteur, un livre où elle raconte son voyage clandestin au Tibet, et c'était absolument extraordinaire.
Il y a forcément toujours des influences, alors on demande quels sont les musiciens qui peuvent influencer. Puis finalement, il peut y avoir d'autres personnalités qui marquent. Et avant de commencer l'émission, il y a juste un moment où tu m'as parlé de ton grand-père et tu m'as dit « c'est vraiment quelqu'un qui a beaucoup compté pour moi ».
Ah oui, mon grand-père qui habite à Bévillard, qui aura 92 ans cette année. Oui, ça a toujours été un personnage que j'ai énormément apprécié.
Qu'est-ce qui t'a transmis ?
Oh, quelque chose de son caractère, je pense. À côté, il est micromécanicien de métier. Ça a toujours été quelqu'un d'assez, quelque part, en même temps d'assez strict, en même temps de très ouvert, de très sociable avec les gens. Quelqu'un de très vivant, très proche de la nature aussi. Ça peut être une chose qui m'a beaucoup transmise. Ça a toujours été un grand marcheur. C'est aussi quelqu'un ça a toujours été aussi quelqu'un qui a beaucoup lu, qui a toujours été très curieux, très ouvert sur le monde.
Musicien un peu aussi ?
Non, pas spécialement, pas lui. Non, c'est quelque chose qui concerne plutôt le côté paternel dans la famille.
Manu Koumer est notre invité aujourd'hui. Alors, on a parlé un petit peu des débuts, on a parlé des musiques que tu écoutais. Il y a eu L'Homme à rang nu et puis il y a d'autres projets, parmi lesquels Glow Gospel. Alors ça, c'est quand même un projet absolument grandiose qui existe depuis 10 ans maintenant.
C'est vrai que c'est... Oui, ça sera le 10e cette année. Je les ai tous faits depuis le début. Ça a commencé à l'origine par quelque chose de quasiment familial, à la Comte-Tabellon. On était quoi, une trentaine, je pense, à chanter. Le concert a eu lieu à la Comte-Tabellon aussi, d'ailleurs. Et depuis lors, eh bien, ça s'est étoffé et commencé. Cette année, il y aura à peu près 100 chanteurs, je crois.
Une centaine de chanteurs et puis une belle petite tournée. Hein.
Oui, il y aura plusieurs dates cette fois-ci, à part le traditionnel concert qui se fait à Glovelier le dimanche après le stage. Après, il y aura des dates là, une date à Montreux, à Yverdon, je crois. Du coup, je sais plus par cœur, comme ça, il y a 4 ou 5...
Enfin, il y a un site internet, on va le mettre en lien, et puis les gens pourront...
Il suffit de taper Glow Gospel sur Google et on trouve tous les renseignements nécessaires.
Yeah.
Au-delà de Glow Gospel, il y a d'autres projets. J'aimerais qu'on parle rapidement d'un projet auquel tu as participé. C'était le projet avec Fox Kijango.
Ah oui, ça c'était...
C'était les vacances.
C'était les vacances, des vacances extraordinaires à Saint-Ursanne. Il nous avait invité des musiciens, un peu de ses amis, pour construire petit à petit un disque. Il avait les textes de près, on lui composait les musiques le jour, on les enregistrait la nuit, on dormait quand on pouvait.
C'est-à-dire très peu.
C'est-à-dire extrêmement
peu. La semaine après, quoi.
Extrêmement peu. Mmh. Et comme ça, le disque s'était construit. On l'avait enregistré ensuite à la ferme Davy. Ah, c'est un album qui a été fait avec des moyens vraiment très rudimentaires. Ça s'entend quand on l'écoute, d'ailleurs. Hein. Là, on ne peut pas dire que la production soit très soignée. On a fait mieux dans le genre. Mm-hmm. Mais c'est un album que j'ai adoré faire et que j'aime toujours.
C'est artisanal, il y a une âme. On reconnaît l'âme de Fox et finalement la folie qui devait régner à ce moment-là.
Ah oui. Oui, alors ça, c'est vraiment très, très palpable sur le disque. Ça, la semaine d'enregistrement aussi a été une semaine de vie extraordinaire. On était enfermés là, à cette ferme. On mangeait, on dormait là. On avait transformé la grande annexe en studio, en plantant des couvertures partout et en bricolant ça comme on pouvait. On chauffait, c'était au mois de janvier, sauf erreur, on chauffait comme on pouvait.
Mourant au loin, un bateau s'enfuit arrachant ses racines d'eau. Quand la terre s'éloigne, oh, quel amour ultime, au seuil d'une campagne, à la fidélité l'intime.
Alors, on parlait de l'écriture, le texte, le mot, la composition aussi, c'est une part importante aujourd'hui.
Oui, aussi. Les chansons qui sont de moi, c'est moi-même qui les écris, paroles et musique. Et à côté de ça, pour Fox, j'ai aussi composé quelques musiques sur des textes. Sur l'album, il y en a 4 ou 5 ou 6 qui sont de moi, je ne sais plus. Et puis, il y a la musique de théâtre aussi. Ça, c'est plus récent.
Alors justement, je voulais venir la musique de théâtre, notamment avec les Face à Main de Courtetel.
Oui, là aussi. J'ai débarqué là-dedans un peu par hasard. C'est des amis à moi qui jouaient avec eux, qui m'ont dit qu'ils cherchaient quelqu'un pour écrire de la musique pour leur prochaine pièce. Mm-hmm. Je suis allé voir et ça m'a beaucoup plu.
Et là, tu as un rôle qui va au-delà du rôle du musicien.
Oui, je me suis mis à faire l'acteur. Oh, pas les rôles principaux, hein, ça, non.
J'aime bien, je me suis mis à faire l'acteur. Ça manquait à ton palmarès.
Oui, au début, je me demandais si j'y arriverais. C'est le metteur en scène lui-même, André Schafter, qui m'a proposé, bourgeois gentilhomme, de tenir en fait le rôle du maître de musique. J'ai accepté en ne sachant pas très bien dans quoi je marchais. Mmh. Et ça m'a beaucoup plu.
Il y Puis encore, et pour terminer l'émission, il y a un autre élément de musique que j'ai envie d'aborder avec toi, c'est Atou Ayou, tu es le troisième larron de Atou Ayou. Tu t'es joint à Kiki Res et Rolf Perretton. Il y a quelque chose de très intime dans Atou Ayou.
Oui, de très intime et de très décontracté aussi. Effectivement, les titres, il y a beaucoup d'imagination pour les titres aussi, les titres des morceaux aussi. Oui, je les connaissais, je les connais les deux depuis très longtemps. Bien sûr, en fait. Ouais. J'ai commencé de jouer avec eux, ça devait être en 2006, je crois, fin 2006. Aussi un peu par hasard, on jouait à Saint-Ursanne dans le cadre des Estivades, et puis j'avais jamais avec eux. Eux jouaient ensemble depuis 2 ans à peu près, je crois, et ils m'ont proposé après de former un trio avec eux.
Si tu devais, alors ça c'est une question un petit peu difficile, mais on va la poser quand même, si tu devais ressortir un événement ou un concert ou quelque chose qui t'a particulièrement marqué dans ton parcours, Manu Koumer.
Il y a beaucoup de choses qui sont importantes, qui sont marquantes, que ce soit avec Fox, que ce soit avec les Astapotes, que ce soit avec l'Omar en nu, avec Atou Ayou aussi. Il y a toujours eu des moments, oh, c'est très difficile de dire quel moment était plus important qu'un autre. Vraiment, j'aurais de la peine à le dire. Quelque chose de fondamental, de vraiment différent. Je ne sais pas. J'en ai fait tellement des concerts que j'ai de la peine à dire.
L'événement musique à l'avenir qui te réjouit le plus?
Alors le Glow Gospel reprend justement, ça c'est dans très peu de temps maintenant. Mm-hmm. Et ça j'ai toujours hâte d'y participer. C'est toujours un très bon moment, ce week-end où on travaille à la colonie du Cru des Biches tous ensemble. On se case à 120 dans une pièce pour travailler. Mm-hmm. Alors ça oui, ça j'ai hâte d'y être.
Merci Manu, bon dimanche.
Merci Jean-Mi.
Come on! La musique.